C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de présenter ici aujourd'hui deux amis et collègues, Franco Buffoni et Guido Mazzoni, deux des plus importants poètes et chercheurs italiens. Grâce à eux et avec eux, nous réfléchirons aujourd'hui sur l'état de la situation en italien. Je voudrais dire que la situation de la poésie italienne contemporaine est bien dynamique, les panoramas des formes et des styles apparaissent très variés et riches. À côté de la génération des maîtres, une classe d'auteurs plus jeunes a grandi, souvent très doués et très conscients. La contribution de la Suisse italienne, bien sûr, et des auteurs italophones actifs en Suisse est également très importante. Cependant, cette vitalité, comme cela arrive aussi dans d'autres contextes, ne correspond pas toujours à la reconnaissance sociale de la poésie. Par exemple, dans la seconde moitié du XXe siècle, il était encore possible de se tourner vers la poésie et les poètes pour réfléchir sur l'histoire, la politique et la société. Aujourd'hui, tout cela est beaucoup plus rare et difficile, mais même si nos invités sont deux heureuses exceptions. Tous deux, chacun à sa manière, ont un regard clair, lucide sur les présents dans lesquels nous vivons. Aussi pour cette raison, leurs œuvres font l'objet des lectures et des discussions, même au-delà des limites des connaisseurs de poésie. Pour comprendre les rôles que la poésie peut jouer aujourd'hui dans la société, en Italie et ailleurs, il est nécessaire de réfléchir sur sa transmission et sur les modalités de sa médiation, comme nous essayons de les faire dans ces assises, comme vous le savez. En particulier, nous nous concentrerons aujourd'hui sur deux formes parmi les plus importantes de médiation et de transmission de la poésie, c'est-à-dire la traduction et la critique littéraire. Dans quelle relation est la traduction avec les textes originaux? Quels sont les problèmes et les ressources de la traduction d'un texte poétique? Quels objectifs encore la critique littéraire devrait-elle avoir en matière des poésies? Ce sont des questions qui affectent directement les contextes littéraires et culturels italiens, mais en même temps, ce sont des questions concernant la pratique de la poésie et les rôles de la poésie au-delà des frontières nationales. C'est pour cela que nous avons choisi d'inviter deux experts qui ont une formation et un rayonnement international. D'une part, les modèles italiens et étrangers sont combinés de manière originale dans leurs écritures. D'autre part, les travaux de nos deux auteurs sont connus et traduits aussi en dehors de l'Italie, en Europe et aux États-Unis quand même. Mais je ne prends plus de temps, je donne la parole à nos intervenants. On commence, comme vous le voyez dans les programmes, par Guido Mazzoni, qui nous va parler au sujet poésie et société dans les contextes italiens. Guido Mazzoni, ancien élève de l'École normale supérieure de Pise, est professeur ordinaire de critique littéraire et littérature comparée à l'Université de Sienne. Il a été chercheur boursier à l'École normale supérieure de Paris, lecturer à l'University College de Londres, Fulbright Visiting Scholar à l'Université de Chicago et Italian Affiliated Fellow for the Arts à l'American Academy de Rome. Il a enseigné comme professeur invité à l'École normale de Paris, à l'École normale de Pise, à l'Université de Chicago et à l'University of Berkeley. Il enseigne aussi à l'école d'écriture Molly Bloom de Rome et au master d'écriture de l'université Ulm de Milan. Il a écrit trois livres de poésie, c'est-à-dire La scomparsa del respiro dopo la caduta, I mondi et La pura superficie, 2017. Ces poèmes ont été traduits en arabe, en chinois, anglais, français et espagnol. Parmi ses études et essais, je cite les livres Forma et solitudine, Sous la poésie moderne, 2005, traduit en français, sur la poésie moderne par Garnier Classique, Théorie del romanzo, 2011, traduit en anglais, Theory of the Novel, Harvard University Press. Et encore, I destini generali, 2015. Il est l'un des fondateurs et coordinateurs du site web culturel Les Paroles et les Causes. Alors, j'invite Guido à venir ici, s'il veut. Merci. Et voilà. Non, toi, déjà, les microphones.
Merci pour cette invitation. C'est un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ce que je dirais part d'une perspective italienne, soit parce que les organisateurs m'ont demandé de partir de l'Italie, soit parce que même dans l'âge de la world literature, pour la poésie, l'enracinement dans une tradition nationale compte encore. On sait qu'il y a un rapport entre la poésie nationale et la langue nationale, et cette relation est la cause plus évidente de cette forme de localisme de la poésie. Elle est la plus évidente, mais peut-être la moins importante. La plus importante, le fait que les traditions poétiques nationales, spécialement à l'âge moderne, ont une histoire largement séparée. Dans l'époque de la world literature, la poésie a conservé quelque chose de vernaculaire. Les manières d'écrire poèmes et les canons esthétiques sont encore très différents de pays en pays. Ce qu'on considère possible ou canonique en Italie est très différent de ce qu'on considère possible ou canonique dans les littératures d'expression française, espagnole ou allemande. Il y a quelques similarités de plus avec les littératures d'expression anglaise, mais pas trop. Ce que je dirais donc part de nécessité de la perspective italienne, mais j'ai l'impression qu'en général, il peut être valable dans toutes les littératures européennes. Je commence avec un constat. À part ceux qui écrivent poésie et ceux qui étudient la poésie contemporaine et qui sont, dans les 80% des cas, des poètes elles-mêmes ou eux-mêmes, la poésie contemporaine n'intéresse à personne. Quand je dis personne, je ne parle pas du public mainstream, je parle d'abord des intellectuels spécialisés dans des autres domaines. Si les philosophes, les historiens, les anthropologues, les sociologues ou les romanciers ont le besoin d'aller au cinéma, de regarder les séries télé, d'acheter les romans dont on parle, les mêmes personnes ne savent rien de poésie contemporaine, ne la lisent pas et ont du mal à connaître le nombre des auteurs plus importants, des auteurs qui font depuis longtemps partie du canon littéraire contemporain. Aujourd'hui, la défense et la reconnaissance de la poésie passent des institutions, des universités, des lycées, des histoires de la littérature contemporaine qu'on fait encore étudier au lycée et dans les universités. Ces phénomènes durent depuis longtemps. Un des premiers à l'identifier a été Walter Benjamin dans son essai sur Baudelaire. Benjamin l'appelle avec un mot qui vient du langage juridique et qui avait été employé par Lénine pour définir la fonction et les rôles sociaux des avant-gardes politiques. Benjamin, je disais, l'appelle perte du mandat social. Baudelaire, selon Benjamin, aurait été le dernier grand poète français à avoir une véritable reconnaissance chez le public. Après Baudelaire, selon Benjamin, le poète aurait perdu son mandat social. En Italie, la perte du mandat social s'est produite deux fois. La première, au début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. La première génération qui fait expérience de cette perte est la génération née pendant les années 80 du XIXe siècle, une génération fondamentale dans l'histoire de la poésie moderne. C'est la génération d'Apollinaire, de Rilke, de Pound, de Trakl, de Eliot ou de Ungaretti. Deux des plus importants poètes italiens de cette génération sont Aldo Palazzeschi et Guido Gozzano. Aujourd'hui, Palazzeschi, Non. C'était pas. C'est mal affiché. Il y a un problème technique, mais on va les résoudre. Aldo Palazzeschi est considéré le plus important poète du futurisme, un des deux poètes futuristes qu'on continue à lire, l'autre étant Soffici. Les poèmes plus connus de Palazzeschi s'intitule « Lasciatemi divertire »,« Laissez-moi m'amuser ».« Lasciatemi divertire » est la mise en scène presque théâtrale d'un dialogue entre un poète et son public bourgeois bien-pensant. Les poètes, au début du poème, s'amusent. Ils s'amusent à faire de vers qui n'ont aucun sens, qui semblent des cris, des bruits d'animaux. Le bourgeois bien-pensant lui reproche d'une façon sévère cette manque du sérieux, tandis que la dernière strophe révèle l'essence du poème. J'aurais voulu vous montrer le texte de Palazzeschi, mais comme ça arrive souvent dans ces cas-là, la technologie nous crée des problèmes au lieu de les résoudre. Moi, j'ai toujours quelques problèmes à accepter ce passage technologique de la culture humaniste vers cette forme de médiation. Je continue à préférer les systèmes anciens. Voilà. Voilà. Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire. Ça, c'est le texte dont je parlais. Ça, c'est le début du texte dont je parlais, qui est longue, 3 pages, donc on ne peut pas le lire. Le poème commence avec ce cri qui n'a aucun sens, qui semble des bruits d'animaux. Tri, 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 frou, 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 oui, 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 you, you, you. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente, non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Tri, 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 frou, 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 oui, 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 you, you, you. Le poète s'amuse follement, démesurément. Ne vous moquez pas de lui, laisse-le s'amuser, le pauvre. Ces petites bêtises sont son amusement. Voilà. Le poème continue, une autre voix prend la parole, c'est la voix du bourgeois bien-pensant que reproche au poète son manque du sérieux et lui dit « Écoutez, monsieur, ça n'a aucun de sens, c'est honteux pour vous. Il y a, spécialement aujourd'hui, qu'il y a des professeurs partout. Arrêtez, s'il vous plaît. » Le poète continue jusqu'à la fin et dans la dernière strophe, on a la morale. Infine, io pienamente ragione, i tempi sono cambiati, gli uomini non domandano più nulla dai poeti e lasciatemi divertire. Finalement, j'ai pleinement raison, les temps ont changé, les hommes ne demandent plus rien de poète. Laisse-moi m'amuser. Donc, je n'ai pas de mandat social, je fais n'importe quoi. Je n'ai pas un lien avec mon public. Je suis en même temps gratuit et libre. Guido Gozzano est un esthète, un dandy sceptique d'origine haute bourgeoise qui découvre très tôt sa vocation de poète. Il était censé faire des études juridiques, il a fait des études juridiques, puis à un bon moment, il découvre sa vocation de poète, mais il découvre aussi d'être malade de tuberculose, et il va mourir très tôt, à 33 ans. Quand il a 20 ans, il lit et imite D'Annunzio. Après, il se rendra compte que D'Annunzio est ridicule, est une figure ridicule. Il lit et il continue à lire, surtout Nietzsche. Gozzano est un des intellectuels italiens plus liés à Nietzsche et un de ceux qui importent dans la culture italienne la leçon de Nietzsche. Il mourra très jeune, comme on a dit. Dans son poème narratif plus connu, La Signorina Felicita, il raconte ses vacances d'été en campagne dans un petit village près de Turin où il habitait. En tant que haute bourgeois de la ville, il est accueilli par la bourgeoisie locale, l'avocat, le notaire, le pharmacien, il s'ennuie dans ce petit village. Il fait connaissance de la fille du pharmacien qui s'appelle Felicita. Comme toutes les femmes de son milieu et moment, Felicita n'a pas fait des études. Elle vit dans ce cliché, dans les clichés de sa classe. Elle attend de se marier. Elle est gentille. Elle est représentée comme un peu bête, comme un peu stupide. Entre Gozzano, entre le poète et Felicita, naît une petite histoire. Elle tombe amoureuse. Lui reste détaché, blasé, mais quand même, il est touché par l'effet que dans ce milieu, il y a encore de passion. On croit à quelque chose, on croit aux intérêts, on croit à l'amour, tandis que lui, le poète, sceptique, nihiliste, ne croit à rien. D'un côté, Gozzano se moque de la bourgeoisie en général, de ce qui est aussi son public, et en particulier se moque de Felicita. Ça, c'est la description de la signorina Felicita. Tu non fai versi, tagli le camicie per tuo padre, hai fatto la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi e non mediti Nietzsche. Mi piaci, mi faresti più felice d'un intellettuale gemebonda. Tu n'écris pas de vers, tu coupes les chemises pour ton père, tu as fait la seconde classe de l'école primaire, ils t'ont dit que la terre est ronde, mais tu n'y crois pas. Ça recommence, apparemment, dans la vie sociale. Et tu ne réfléchis pas sur Nietzsche. Tu me plais. Je pense que tu me rendrais plus heureux qu'une femme intellectuelle, littéralement qui j'ai mis, soupirante, on pourrait dire. Donc, Gozzano se moque de la signorina Felicita, se moque de la bourgeoisie, mais au même moment, il comprend que la bourgeoisie et la signorina Felicita ont quelque chose pour lequel vivre, croit encore à quelque chose de primaire, à quelque chose de réel. Lui, en revanche, l'intellectuel blasé, mais surtout le poète, est un individu qui a perdu tout contact avec la vérité et avec un milieu social. Il ne représente que lui-même. Il est complètement seul, il est complètement gratuit. Et ça, c'est la description du poète. Questa vita sterile di sogno, meglio la vita ruvida concreta del buon mercante inteso alla moneta, meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno di essere un poeta. Cette vie stérile de songe, c'est mieux la vie rude, concrète du marchand qui cherche à faire de l'argent. C'est mieux aller sferzati dal bisogno, sous le poids de la nécessité. Mais vivre de vie, j'ai honte, oui, j'ai honte d'être un poète. Ça, c'est l'équivalent de la dernière strophe de Palazzeschi. C'est le constat que le poète n'a pas un rôle social, qu'il n'a pas une vérité sociale réelle à transmettre, qu'il est seul et qu'il a quelque chose de pas bien dans le fait d'être un poète. Palazzeschi et Gozzano donc dénoncent la perte du mandat social et il y a beaucoup de poètes dans la même période qui font la même chose, mais Palazzeschi et Gozzano en Italie sont peut-être les plus célèbres aujourd'hui, ceux dont on a gardé les souvenirs. Cette perte s'est produite donc au début du XXe siècle, dès la Belle Époque à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on sait que cette perte du mandat social est la première, mais elle est relative. Elle est relative parce que dans la société des années 10 du XXe siècle, les différences culturelles sont encore très fortes. Selon les récemment du 1911, presque la moitié de la société italienne, à cette époque-là, est analphabète. Dans un contexte semblable, ceux qui arrivent à publier un livre font quand même partie d'une élite culturelle reconnue. Même s'ils sont perdus en contact avec un public bourgeois, ils sont toujours partie d'une élite. La société des premières décennies du XXe siècle est une société des notables. Et dans une société pareille, la perte de mandat social est toujours relative. Celui qui publie un livre, même s'il est seul, même s'il ne représente que lui-même, est toujours un notable, est toujours quelqu'un qui fait partie d'une élite reconnue. Dans une société où la moitié de la population est analphabète et le 70% est analphabète fonctionnel. La deuxième et définitive perte du mandat social en Italie a lieu 50, 60 ans après. Elle a lieu pendant les années 70. Elle est annoncée par la première anthologie qui recueille les poèmes de la génération du 68. Cette anthologie s'appelle Parola Plurale, sort en 1975, rassemble poèmes écrits par des auteurs nés de 1938 au 1951 et commence par une préface écrite par Alfonso Berardinelli. Cette préface fait date. Berardinelli dit des choses prophétiques sur l'évolution de la poésie italienne, mais surtout, il fait un constat fondamental. Aujourd'hui, écrit Berardinelli, le public de la poésie en Italie coïncide avec les poètes. Les poètes sont beaucoup, ils ont subi un processus d'inflation, mais ils sont surtout autoréférentiels. Ils sont un cercle social renfermé sur lui-même. La plus grande conquête social-démocratique de l'après-guerre, la scolarisation de masse, a multiplié le nombre des écrivains potentiels et a contribué à détruire la distance entre poète et public. Du 1968 au début des années 70, cette masse s'était exprimée surtout à travers la politique. Après la crise de la première vague du long 68 italien, avec ceux qui avaient été appelés il riflusso, les reflux, cette masse de jeunes était revenue à des activités directement artistiques. Et la poésie était et est, au moins apparemment, l'activité artistique la plus facile à pratiquer. Donc, il y avait, dans les longs 68 italiens, comme vous savez, en Italie, les 68 a duré 14 ans, de l'automne du 67 à l'automne du 1980. Dans l'automne du 67, on a les premières occupations de facultés à Trento, à Turin. Et dans l'automne du 1980, il y a la fin de l'occupation de la Fiat à Turin avec la victoire de la propriété, avec la victoire des patrons. Et on a aussi la première émission de la première télévision privée nationale italienne qui s'appelle Canale 5. 14 ans après, les propriétaires de Canale 5 seraient devenus le premier ministre italien. Silvio Berlusconi. Fait toujours rire. On ne s'habitue jamais. Fait jamais l'habitude. Voilà. Donc, la première vague du 68 italien s'était dédiée à la politique. La deuxième vague, après les irriflusso, après les reflux des années 70, des années 72, 73 surtout, s'était dédiée en masse à la poésie. À moitié des années 70, il y avait beaucoup de publications de poésie, il y avait beaucoup de lectures de poésie, il y avait une activité poétique qui était expression de ce néo-individualisme qui était typique des années 70 et qui faisait partie de la culture du 68 après la première crise politique de cette culture. L'épiphanie de cette deuxième et définitive perte du mandat social a lieu en Italie dans l'été du 1979. En juin 1979, la mairie de Rome et un théâtre d'avant-garde à l'époque très important qui s'appelait Beat 72 avait organisé sur la plage de Rome, pas loin du lieu où Pasolini avait été tué 4 ans avant, un festival de poésie. Les organisateurs attendaient des 100 à 1000 personnes. La plage ce jour-là, 28 juin 1979, était bondé, complètement bondé. Il y avait des milliers de personnes. Les causes d'un phénomène si inattendu étaient beaucoup. Il y avait le climat du 77 italien qui était particulier et qui était encore là. Les organisateurs avaient invité Patti Smith en tant que poète. Patti Smith, à l'époque, était très fameuse en Italie. Elle avait refusé très politement, mais on avait déjà fait passer le mot qu'elle aurait été à Castelporziano et des gens étaient là pour elle. Il y avait les poètes beat américains, surtout il y avait Allen Ginsberg, qui à l'époque était très fameux en Italie. Donc il y avait des causes pour ces rassemblements inattendus des milliers et milliers et milliers de personnes. De toute façon, cela était vraiment une espèce de Woodstock de la poésie et complètement inattendu. À un bon moment, du début de ce festival, quelque chose d'inattendu et allégorique s'est produit. Du début du festival, le public monte sur la scène et demande la parole. Les personnes du public ne reconnaissent pas l'autorité des poètes et demandent le micro pour lire leur poème. Et parmi les poètes, il y a des poètes à l'époque très connus. Il y a par exemple Amelia Rosselli, un des plus grands poètes du XXe siècle italien. Il y a Milo De Angelis, qui part pour troisième, par exemple. Dans l'épisode plus célèbre de cette révolte du public qui demande les micros, une jeune fille adolescente, habillée en maillot de bain en t-shirt, réclame la parole et, avec un lourd accent dialectal, elle dit « Vous ne représentez rien, moi je suis comme vous, moi j'ai des choses à dire, j'ai mes vibrations, je vois exprimer mes vibrations. » Les organisateurs essayent de lui enlever les micros, mais le public proteste. Beaucoup de poètes seront, de ce moment-là, accueillis avec le slogan typique des manifestations politiques du 77 italien. Scemo, scemo. Idiot, idiot. Ils cherchent à lire le poème et ils sont interrompus par le public qui refuse l'autorité des poètes italiens. Le même public reconnaît, en revanche, l'autorité de Allen Ginsberg. Et des poètes beat américains, qui parlent dans une ambiance très attentive. Mais les poètes italiens sont contestés. Castelporziano est un lieu et un événement allégorique. C'est le moment où la crise sociale de la poésie en Italie se révèle avec une évidence particulière. Cette deuxième perte du mandat social est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est toujours là, elle est irréversible. Il vient de plusieurs causes. La diminution de la distance sociale entre poètes et public, la prise de parole généralisée, l'extension aux masses des idéaux existentiels des artistes romantiques, la naissance d'une seconde culture humaniste, la culture pop, qui produit à son intérieur un art comme la musique rock, qui est l'équivalent de ce que la poésie était dans la culture humaniste officielle, mais qui a un consensus plébiscitaire aujourd'hui parmi le public, tandis que la poésie n'intéresse à personne. Internet, les autopublications en ligne et ensuite les réseaux sociaux compléteront ce processus. Les arts modernes, selon Bourdieu, fonctionnent selon une dynamique triangulaire qui est proche à la dynamique qui fait fonctionner les religions, selon Max Weber. Dans les religions, la parole des prophètes, interprétée par les ministres du culte, arrive aux fidèles. Dans les arts modernes, l'œuvre des artistes, à travers la médiation de la critique et des institutions culturelles, écoles, universités, maisons d'édition, journaux, arrive au public. Dans le cas de la poésie contemporaine, ce triangle se réduit à une ligne, parce que le public désormais coïncide avec les auteurs et parce que le médiateur perd d'importance. Les causes sont évidentes, mais ils ne suffisent pas à expliquer les phénomènes. Ces causes, d'ailleurs, concernent toute la littérature, mais la perte du mandat social n'a pas les mêmes effets dans les autres genres. Au-delà de ce qu'on a dit, il y a une raison plus profonde et inscrite dans la logique de la poésie moderne qui explique la perte du mandat social. La perte du mandat social est liée à ce que la poésie moderne est devenue dans les deux derniers siècles, c'est-à-dire les genres littéraires de la subjectivité. J'évite toute définition philosophique du mot subjectivité, je me limite à décrire des phénomènes, des contenus et des styles. Sur le plan de contenu, la grande nouveauté de la poésie moderne, que la poésie moderne introduit, est une nouvelle forme d'autobiographisme. Le degré de précision et d'indulgence avec lesquels le jeu lyrique moderne parle de sa propre subjectivité réelle ou imaginaire, de ses propres anecdotes, opinions, idiosyncrasies, n'a pas d'équivalent avant la frontière historique que, avec une chronologie différente selon les différentes littératures nationales, se produit dès la seconde moitié du XVIIIe siècle à la seconde moitié du XIXe siècle. Avant cette frontière, l'autobiographisme en poésie était caractérisé soit de la nécessité de filtrer les données trop empiriques, trop idiosyncratiques pour créer un modèle général de subjectivité, soit des lois de genre littéraire qui agissaient de la même manière. Après, la poésie est vraiment les genres où l'autobiographisme empirique des individus, quelconque, réel ou fonctionnel, peut se montrer sans filtre. Ça sur le plan de contenu. Sur le plan de style, les mouvements vers la subjectivité en tant que multiplication de différences touchent tout aspect de l'écriture, la métrique, le lexique, la syntaxe et la figuralité, c'est-à-dire les tropes. Sur le plan métrique, le changement fondamental est, comme on sait, l'invention du vers libre et du poème en prose, voire l'idée qu'on puisse faire poésie sans respecter la convention sociale qui est la métrique. Mallarmé, en Crise de vers, interprétait ces passages d'une manière qui est encore valable. Il interprétait comme un signe de l'inexpliqué besoin d'individualité qui est typique de la société moderne. Et c'est vrai. Si on pense vraiment à ce que le vers libre signifie, on voit qu'il s'agit d'une rupture profonde et qui va vers la direction d'une explosion de différences et des droits des individualités et de la subjectivité. Dans les domaines du lexique, du vocabulaire, de la poésie, le changement fondamental est la mort de ce que William Wordsworth, dans le deuxième préface à The Lyrical Ballads, 1802, appelait « poetic diction », c'est-à-dire l'idée que le langage de la poésie doit rester séparé du langage de la prose comme une langue spéciale qui suit de lois séparées, de lois qu'on utilise quand on écrit en prose. Une de ces lois, la plus importante, a été, pendant longtemps, dans les littératures qui avaient une base classiciste, la loi de séparation de style, ce qui est au centre de la grande philosophie de l'histoire littéraire que Erich Auerbach déploie dans son Mimesis. Mais ce n'est pas la seule. De toute façon, à partir d'une frontière historique, qui a des chronologies différentes selon les différentes littératures, la poésie commence à se libérer de la poetic diction et à utiliser n'importe quel lexique. En Italie, cette frontière s'est produite de Pascoli, c'est-à-dire des années 90 du XIXe siècle, à l'âge de l'avant-garde, à l'âge des avant-gardes, des premières avant-gardes, aux années 10 et 20 du XXe siècle. À partir de cette frontière, la poésie a les droits implicites d'utiliser n'importe quel vocabulaire. C'est un passage fondamental. Dans les domaines de la syntaxe, on assiste à une transformation semblable dans la mesure où les poètes acquièrent le droit à utiliser une syntaxe qui peut ne pas respecter les règles de la grammaire. C'est ce qui se passe avec l'invention du monologue intérieur, ou du stream of consciousness, qui touche soit la prose, soit la poésie au même moment. Comme vous savez, l'invention du monologue intérieur, dans ce sens-là du mot, traditionnellement est attribuée à Dujardin, l'auteur, le romancier naturaliste, auteur de « Les lauriers sont coupés », un roman qui est presque oublié aujourd'hui, publié en 1887 et redécouvert par le jeune James Joyce au début du XXe siècle, et qui devient le modèle de l'usage que James Joyce fait du monologue intérieur dans Ulysses. Mais le même processus se produit en Italie. Par exemple, la nouveauté qu'on trouve dans les poèmes de Marinetti ou de Campana est le fait que, surtout Marinetti, mais d'une façon plus subtile et intelligente, Campana, commence à utiliser une syntaxe qui ne suit pas entièrement les règles de la grammaire. Donc ils déploient une manière d'écrire qui s'éloigne du centre social représenté par les règles de la grammaire et devient centrifuge, libre, guillemets sur libre, ouverte à de possibilités d'expérimentation nouvelle. Finalement, le mouvement qui porte le style de la poésie loin du sens commun et du centre des règles sociales touche ce que la nouvelle rhétorique appelle la figuralité, c'est-à-dire l'usage des tropes. De Baudelaire aux premières avant-gardes du XXe siècle, du Baudelaire au surréalisme, pour citer un classique de la critique sur la poésie contemporaine, les poètes acquièrent une liberté dans l'emploi des tropes qui n'a pas d'équivalent, même pas dans l'âge baroque, et qui est le premier responsable de ce qu'un topos critique appelle l'obscurité de la poésie moderne. Le premier responsable de l'obscurité de la poésie moderne est la liberté figurale que les poètes se sont donné à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Pas tous les poètes font ça, mais cette possibilité s'est grammaticalisée, fait partie de la grammaire de la poésie moderne et est perçue du public comme un mouvement vers la subjectivité, l'idiosyncrasie, la séparation d'un centre commun. Donc, contenu et style de la poésie moderne sont façonnés par un mouvement centrifuge qui porte loin du commun et vers l'explosion de manières individuelles de dire, voir, faire expérience. Ces centres communs sont soit les mots de la tribu, pour citer Mallarmé, soit la Lebenswelt, le monde de la vie, le monde de l'expérience ordinaire. La subjectivité, les individus dont il est question peuvent être des individus réels, peuvent être des individus fonctionnels, peuvent être des subjectivités des groupes. Souvent, ils sont des subjectivités des groupes. Ce qui compte est l'éloignement du sens commun, l'impression de défamiliarisation que la poésie moderne communique et qui est perçue soit comme obscurité, soit comme idiosyncrasie. Un des phénomènes qui définissent l'époque moderne est précisément l'explosion du droit à la subjectivité, à l'idiosyncrasie, à l'auto-expression. Un des premiers effets de cela est la division du monde en monde, la naissance des sphères séparées, cloisonnées, et l'indifférence, voire la gêne, que l'idiosyncrasie et la séparation des autres nous suscitent quand elles s'expriment. La poésie est au centre de ces processus. Elle est les gens littéraires qui expriment et en même temps subissent les conséquences de ces processus. Les romans, par exemple, en revanche, restent attachés à une ontologie que les sens communs continuent à reconnaître. Dans sa forme moyenne, je ne commence pas à définir ce que le roman moyen est, mais je le considère comme une chose pas évidente, mais comme une ressemblance de famille à laquelle je peux faire référence. Disons, le roman dans sa forme moyenne il nous présente un monde fait de personnages et d'histoires. Ces deux notions périmées, comme disait Rob Crier pour un nouveau roman, sont encore les fondements de la plupart des romans qu'on lit et sont aussi ce qui rend les romans lisibles à la plupart des lecteurs. À la base des romans, dans sa forme non expérimentale, il y a toujours la forme anecdote. La poésie, en revanche, fait éclater la différence des mondes, fait éclater, peut faire éclater dans sa grammaire le sens commun, les mots de la tribu, la Lebenswelt. Sa perte de mandat social, donc, n'est pas seulement conséquence d'un phénomène externe. Il fait partie de sa propre logique. La poésie est l'agent de l'idiosyncrasie. Et la poésie est l'agent de la particularité radicale. Particularité individuelle, particularité des groupes. Mais un genre centrifuge. La poésie nous montre une vérité profonde de l'ultra-individualisme contemporain. Nous désirons prendre la parole et nous exprimer, mais l'auto-expression des autres, leur monde singulier, d'habitude, nous ennuie, nous dérange, on ne le comprend pas, parce qu'on fait expérience de la particularité radicale et de la séparation du monde en monde. Quelle est alors la vérité, s'il y a une vérité, de la poésie contemporaine ? D'une part, le fait que la poésie contemporaine nous révèle cette structure profonde de notre culture. Elle nous révèle que nos manières personnelles de voir les choses, nos idiosyncrasies, notre séparation, peut être pour nous plus intéressant de la manière commune de dire ou voir les choses. Sa vérité, la vérité de la poésie moderne et contemporaine, est ce que Adorno appelait son individuation sans réserve. Ça est vrai, prophétique en quelque manière. La poésie contemporaine anticipe, si on veut, ce qu'on voit, mais non sur une échelle sociale plus large, dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux, si vous voulez. Et est terrible parce que la vérité qui laisse au fond est celle qu'on lit dans une des hémistiches plus beaux et terribles de Eugenio Montale. Et ognuno riconosce i suoi. Chacun reconnaît les siens, ceux qui font partie de son petit monde, ceux qui partagent les mêmes présupposés, ceux qui font partie de sa petite sphère, de sa filter bubble, si vous voulez. De l'autre part, la poésie contemporaine nous dit quelle est la position de la littérature d'essai, j'utilise ce mot qui vient du cinéma, de la littérature des recherches, dans la société contemporaine. Toute vie sociale s'effondre sur un compromis, une négociation entre subjectivité et différence. Cela est encore plus vrai dans l'époque où les subjectivités ont acquis les droits à se manifester. D'un point de vue culturel, notre culture partagée, notre culture sociale, toute culture qui circule et devient commune, mainstream, s'effondre sur une réduction, une atténuation des différences, sur la recherche d'un terrain commun qui naît du manque et qui s'effondre finalement sur une forme de mensonge. La poésie est précisément le renversement de ces mensonges. Dans toute la bonne littérature, il y a un élément antisocial. Et la poésie est le plus antisocial des genres littéraires. Elle est, si vous voulez, le retour du refoulé de la société moderne, la face cachée de la lune sociale. Sa marginalité sociale est, finalement, sa vérité. Merci.